France Culture.
Je crois que c'est une phrase du personnage de Raphaël. Oui, c'est une phrase du personnage de Raphaël qui dit que les livres sont plus précieux que l'odeur d'une nuque parce que on peut les relire en fait, on peut revenir.
Wendy Delorme, romancière.
C'est comme un espace où va être consignée la mémoire de quelque chose de vécu et qui va être, sauf si le livre est détruit, plus fiable que la mémoire individuelle. Et je crois que ce que j'ai voulu dire dans ce passage-là, c'est que les livres sont un endroit pour recueillir et pour transmettre la mémoire, notamment des libertés qu'on a, parce qu'on observe qu'elles sont jamais acquises pour toujours. Et c'est ça que ce personnage essaye de dire, en fait, c'est que dans les livres, on consigne et on conserve la mémoire de ce qui a pu être et de ce qui peut-être ne sera plus.
J'aimais tant l'aube, déjà, que ma mère me l'accordait en récompense. J'obtenais qu'elle m'éveillât à 3h30, et je m'en allais, un panier vide à chaque bras, vers des terres maraîchères qui se réfugiaient dans le pli étroit de la rivière, vers les fraises, les cassis et les groseilles barbues. À 3h30, tout dormait dans un bleu originel, humide et confus. J'allais seule, ce pays malpensant était sans danger. C'est sur ce chemin, c'est à cette heure que je prenais conscience de mon prix, d'un état de grâce indicible et de ma connivence avec le premier souffle accouru, le premier oiseau, le soleil encore ovale, déformé par son éclosion. Ma mère me laissait partir, après m'avoir nommée beauté, joyau tout en or. Je l'étais à cause de mon âge et du lever du jour. À cause des yeux bleus assombris par la verdure, des cheveux blonds qui ne se rélissaient qu'à mon retour, et de ma supériorité d'enfant éveillée sur les autres enfants endormis. Les livres, c'était vraiment un refuge. J'étais tout le temps dedans. Mes parents se disputaient beaucoup quand j'étais petite. C'était très violent à la maison.
Marine.
J'avais ma bulle, quoi. Je lisais. Mais c'était un stade où vraiment je pouvais ne faire que ça de ma journée. Il n'y avait pas de souci, quoi. Et là. Enfin, ma mère raconte souvent ça, que je la suivais en lisant. Je pense qu'elle pouvait faire les courses et je lisais à côté. Tout le temps, tout en train de lire. Et ouais, c'était mon espace. C'était un endroit où j'étais en contrôle, je pense, aussi, de la situation. Je savais peut-être pas ce qu'allait se passer dans mon livre, mais je savais que j'allais finir par le savoir.
Coucou.
Salut, ça va?
Ça va et toi?
Oui.
Lectrice.
Allez,
au book club.
Oui.
Entre
gars,
Lorraine, je veux bien une bière.
C'est elle qui lise, une série documentaire d'Hélène Goutani, réalisée par Anne Pérez. Épisode 7, book club, un lieu de partage. Celles qui lisent se réunissent, parfois le soir en semaine, ou des après-midi d'hiver autour d'un thé. Les plus jeunes le font sur la pause déjeuner dans leur établissement scolaire, quand d'autres se rendent dans des groupes de lecture organisés par les bibliothèques de quartier. Elles échangent sur un livre, une autrice, se fixent des objectifs, se révèlent et découvrent des formes de littérature qui leur étaient jusqu'alors étrangères. De Strasbourg à Quimperlé, celles qui lisent échangent autour de ce livre-événement. Mon vrai nom est Elisabeth Dadelion, qui retrace la vie d'une femme considérée comme schizophrène. De manière ponctuelle, les lectrices ouvrent l'intimité de leur bibliothèque. Elles se transmettent ce qu'elles ont éprouvé. Celles qui lisent, l'ajout collectif.
Que parfois t'as un mal-être, tu sais pas d'où il vient, c'est ce qu'elle dit, tu vois. Mais en fait, c'est une génération de grands-parents. Je pense que surtout, enfin, tu vois, les générations des grands-parents et tout ça, ils ont vécu des choses hyper dures. Parfois, je le sens, tu vois. Je porte des choses qui sont pas vraiment mon histoire, mais qui viennent de plus loin. Et ça fait, moi, je me suis déjà dit plein de fois, comme toi, quand tu disais en interview, que j'aimerais faire des recherches sur l'histoire de ma famille pour comprendre vraiment ce qu'ils ont vécu, tu vois.
Désormais, ce qui advient après la colère, non pas après, ce qui advient au milieu de ma colère, ce qui s'ouvre en son centre comme un trou noir, c'est qu'au fond de moi, la question se pose, se dépose d'abord, doucement, sans trop insister, parce que je suis une femme, parce que j'ai bientôt 30 ans, parce que je viens d'une certaine famille, parce que j'ai reçu une certaine éducation, disons. La question se pose, en partie pour ses raisons factuelles, biographiques, qui me rapprochent de Betsy, et en partie pour d'autres raisons sociales, structurelles, qui m'apparaissent dorénavant évidentes. La question s'impose finalement à moi. Aurais-je pu être jugée pour ces colères? Jugée est un euphémisme, il faudrait plutôt dire condamnée, sans procès. Et à cause de cette question, le sentiment qui naît au milieu de ma colère, qui souffle sur son brasier, jusqu'à me faire sortir les flammes de la bouche et des narines, c'est la rage. une rage qui me monte de l'estomac et emporte tout sur son passage, lorsque je comprends que pour de tels accès de fureur, d'autres, avant moi, ont pu être jugés, c'est-à-dire, comme je l'ai écrit plus haut, condamnés sans procès. La colère, c'est un sentiment qui, parfois, peut être un petit peu tabou.
Chloé.
Et je sais pas, de lire justement ces mots et de voir qu'une femme, parce qu'elle a été en colère, parce qu'elle s'est exprimée, eh bien, elle est passée par autant de tortures et de malheurs. Moi, la première, je ne me mets pas en colère. Alors que des fois, je ressens de la colère, vraiment, ça, c'est sûr. Mais il y a quelque chose en moi qui m'empêche de, justement, partir dans cette fureur ou dans cette rage. Et j'ai trouvé ça fort dans un livre de parler de cette colère qui finalement est normale et de voir que les femmes, elles ont toujours été jugées pour ces excès. Ouais.
Mais d'ailleurs, ça me fait penser à une question que je me suis vraiment posée pendant cette lecture. Finalement, Betsy, est-ce que de base, elle est schizophrène? Ou est-ce que c'est pas tout ce qu'on lui impose, tout ce que André lui impose, qui fait que juste... Au départ, elle s'exprime, elle exprime son mécontentement, et lui, il n'est pas content, il n'est pas d'accord, et donc, bah, les médecins, ils vont poser un nom en disant c'est de la schizophrénie, mais en fait, est-ce qu'elle est vraiment schizophrène? Est-ce qu'elle a vraiment un problème mental?
Le diagnostic facile pour mettre les personnes, et principalement les femmes et les enfants, donc les personnes un peu...
les minorités.
Minorités, merci, minorités, voilà, et qui sont inférieures aux hommes. Les gens qui dérangent un peu, on les met dans un truc, on leur transperce le cerveau et on ne veut plus en entendre parler pendant 20 ans.
Faut pas qu'ils dérangent.
Quoi. Faut pas qu'ils dérangent.
Mais est-ce que cette idée, quand vous avez commencé à lire le livre, vous étiez déjà là-dedans? Enfin, c'est-à-dire,
non.
Moi, je l'ai vite compris, mais en fait, elle...
3 ans après l'opération, la lobotomie a réduit mes scrupules, mais j'ai des scrupules d'en avoir moins. Je lis peu, je regarde les images. J'étais comme ça avant la lobotomie. J'aimerais me promener, je le faisais avant. Je n'écris plus. Je ne peux plus y arriver. Quand on m'a annoncé la mort de papa, je n'ai pas pu verser une larme. Je ne pleure plus maintenant. Depuis l'opération, c'est bizarre, il faut que je raisonne pour avoir du chagrin. Je n'en ai pas tout de suite. Ça, c'est pas naturel. Depuis ma lobotomie, je pense que je suis plus indifférente, plus près des animaux. Il y a 3 autres phrases qui viennent un peu plus tard. Oh les bandits, je vais mourir, on me défonce la matrice. Je me visualise une femme avec des chaînes, mais tu peux pas les enlever, quoi. Et c'est un peu ce truc de...
Pauline.
Elle est lucide quand elle dit ça, c'est-à-dire qu'elle est lucide que c'est plus elle, que c'est pas vraiment elle, qu'elle a rien demandé et qu'on lui a fait un truc qui la dépasse et qu'elle se sent enfermée dans ce corps. Et c'est surtout le rapport au corps, parce que ça, pour moi, c'est hyper important. Tu vois, je trouve que dans le rapport qu'on a à notre corps, à notre espace, ben, c'est ce qui crée le pouvoir de la femme. Et là, c'est... Toute la frustration, je trouve, qui s'exprime à travers ça. Et en même temps, elle est lucide et calme dans ce qu'elle décrit. Et après, cette allusion un peu à « on me défonce la matrice ». Pour moi, tu sais, la matrice, c'est à la fois le cerveau, mais l'utérus. Enfin, c'est tous ces... Il y a l'attribut féminin qui crée la naissance, qui crée la vie, qui crée la, tu vois, toute cette créativité qu'elle a perdue. Et ouais, j'ai trouvé ça puissant parce que ça faisait allusion à tout ça pour moi.
La lobotomie, ça devient juste des fantômes d'elle-même.
Et moi, je pense que c'est pour ça que le livre, il est découpé comme ça. Et en fait, il y a d'un coup un stop net et on dit, ok, maintenant, on t'informe de ce que ça fait réellement et hop, on reprend le récit pour mieux comprendre l'histoire.
Ça va être hyper adapté à notre génération. Enfin, je pense que ce livre, s'il sort maintenant et qu'il est entre nos mains et qu'il y a toutes ces recherches familiales, j'ai l'impression que c'est très lié à notre génération, tu vois, avec cette responsabilité qu'on a, où genre ni nos parents ni nos arrière-grands-parents, ça les intéressait, ou c'était leur mission de vie. Ouais. Et si ce livre, il est hyper populaire, à gagner plein de prix et à faire un espèce de « ok, waouh, ça me parle », c'est que vraiment, je trouve que c'est entre nos mains, cette mission-là, tu vois.
Mais
je
trouve que ça rejoint trop aussi l'autre livre.
J'ai découvert vraiment justement une autre littérature. Je pense notamment à Virginie Despentes, que je n'avais jamais lue et que je ne comptais pas forcément lire non plus, parce que justement je trouvais que c'est un thème très important, mais c'est déjà tellement compliqué au quotidien, la vie,
que j'avais pas forcément envie de me plonger dans un livre qui souligne clairement les problèmes. Et en fait, ça m'a ouvert, justement, le book club, il m'a ouvert à ce type de littérature. Et j'ai trouvé ça agréable, en fait. C'est vrai que moi, j'avais un petit peu mes écrivaines et écrivains doudous, où tous les ans, ils sortaient un nouveau livre, je l'achetais, et je sortais pas vraiment de cette bulle. Donc le book club, il me permet justement de découvrir d'autres écrivaines, d'autres types de littérature, d'autres façons d'écrire. Adèle Yon, par exemple, c'est vraiment une façon d'écrire qui est complètement différente de ce que j'ai pu lire jusqu'à présent.
Pour moi, une lectrice, c'est quelqu'un,
Mélina,
qui a étudié dans une école avec des livres et maintenant qu'elle sait lire.
Et elle lit beaucoup de livres chaque jour et elle peut ensuite lire quand elle veut.
Ce serait quoi une grande lectrice? Parce que tu as dit tout de suite que tu n'en étais pas une, donc c'est...
Oh, quelqu'un de peut-être mieux éduqué que moi. Je dirais peut-être quelqu'un, je sais pas, qui...
Anne.
Pourquoi je me considère pas plutôt une grande lectrice? Je pense que je préférerais le dire. Moi, j'ai adoré lire Twilight, par exemple. C'était vraiment, vraiment super. Ouais, vraiment, j'avais 12 ans, Twilight, c'était incroyable. Je me suis même battue avec ma sœur pour le dernier tome. Voilà, donc je crois que moi, je me force pas non plus à lire des genres. Et je crois que quand on utilise peut-être des termes grande lectrice, je sais pas, je me considère pas comme ça.
Et qu'est-ce que ça apporte le book club, justement, ce partage de la lecture?
Moi, je trouve qu'en discuter, avoir d'autres points de vue, comprendre d'autres choses que moi, j'avais pas forcément compris dans ma lecture, ça me force vraiment à me confronter aux mots qui sont dits, aux expériences qui sont décrites, et je trouve ça chouette. Je trouve qu'on s'aide à grandir et mieux comprendre plutôt que, on se laisse la place à tout le monde de parler.
Alors, c'est un des passages dans le début où je me suis...
Audrey.
Alors, je vais lire. Parce que l'idéal de la femme blanche, séduisante mais pas pute, bien mariée mais pas effacée, travaillant mais sans trop réussir, pour ne pas écraser son homme, mince mais pas névrosée par la nourriture, restant indéfiniment jeune sans se faire défigurer par les chirurgiens de l'esthétique, maman épanouie mais pas accaparée par les couches et les devoirs d'école... Bonne maîtresse de maison, mais pas boniche traditionnelle, cultivée, mais moins qu'un homme. Cette femme blanche, heureuse qu'on nous brandit tout le temps sous le nez, celle à laquelle on devrait faire l'effort de ressembler. À part qu'elle a l'air de beaucoup s'emmerder pour pas grand-chose, de toute façon, je ne l'ai jamais croisée, nulle part. Je crois bien qu'elle n'existe pas. King Kong Theory, de Despont, qui a été un des premiers qu'on a lu, du coup. Où effectivement, là, c'était une des premières lectures qui a un peu, vraiment, un peu allumé l'étincelle de cette colère. Après, j'ai un peu enchaîné quand même sur certains essais. Là, pendant l'été, j'avais lu Le coup de la virilité. Moi, les hommes, je les déteste. Alors voilà, je sais pas non plus de m'abreuver que de ce type de lecture, mais...
Alors, en quoi ça résonne?
Parce que ça renvoie à beaucoup d'images que la société nous renvoie, ou nous a renvoyées, en fait, pendant très longtemps, et avec lesquelles, moi, j'ai grandi, finalement. Et dans laquelle je me reconnais pas. Donc, je pense que de lire ça et de me dire, ben, on voudrait nous faire rentrer dans beaucoup de petites cases, mais finalement, et c'est bien de le lire, elle n'existe pas, cette personne, c'est un fantasme. Ou peut-être que si elle existe, dans quelles conditions elle se retrouve pour être comme ça. Et voilà, quelle est la pression de cette personne, si tant est que c'est pas juste une image dans laquelle on voudrait bien nous faire rentrer.
C'est un privilège quand on est autrice, auteur, d'avoir... parce qu'on ne se rend pas compte, évidemment, quand on l'écrit, de ce que ça peut devenir, quoi. Parce qu'il a 20 ans, le livre, maintenant.
Virginie Despentes, écrivaine.
Bah, c'est un coup de grâce qui m'est tombé dessus, quoi, au sens où c'est moi l'autrice du livre, donc je ne sens même pas qu'il m'appartient, mais je ne sais pas comment dire, au bout d'un moment, il écrit depuis tellement longtemps. Mais je sais que c'est quand même, c'est moi qui l'écris, c'est génial. Non, c'est quelque chose, je pense, qu'on désire quand on est auteur. On m'en a tellement parlé, quoi. Je savais pas que ça m'apporterait autant de bonnes choses. À écrire, c'est pas évident. Donc, ça donne un sens à ce que j'ai entrepris de faire de ma vie, quoi. Ouais. Quand j'ai commencé à le faire, j'ai pas compris que ça avait quelque chose de particulier. Je me suis pas dit, je vais écrire des héroïnes super cheloues. J'ai fait, quoi. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, dans la littérature française, il y avait très peu de... Et je dis ça, et à la fois, c'est pas vrai, parce que la première fois que j'ai lu Cathy Hacker, je savais que c'était une femme, et je savais qu'elle écrivait quelque chose de très particulier pour une femme à l'époque. Parce que c'était très rare que les femmes parlent de sexe de façon très directe, et qu'il soit pas genre libertine, je sais pas quoi, que c'était vraiment au cul, quoi, et qu'elle écrivait comme un mec. Et je sais que quand j'ai lu Katia Kerr, ça m'a fait un effet très particulier. Mais moi, ayant été une lectrice dans les années 80, on n'avait pas de genre. Nous, les, justement, c'est un endroit où on n'avait pas de genre. On s'identifiait avec n'importe quel mec, il n'y avait pas de genre. Ça, c'est notre capacité, par contre, de lectrice. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus difficile pour un lecteur de s'identifier à n'importe qui. Ouais, on est vraiment un lecteur universel. Quand on est une femme, on s'identifie à la... Si ça marche, le contrat avec le livre, on s'identifie à qui écrit. Et c'est ça aussi, je pense que c'est un pouvoir incroyable.
Il y a plein d'écrivaines qui m'ont marquée d'une manière ou d'une autre.
Cécilia.
Là, cet été, j'ai été très troublée par Wendy Delorme et Le Chant de la rivière. Donc ça, c'est un peu la dernière autrice qui m'a vraiment marquée. En fait, je l'ai trouvé hyper touchant. Je trouvais que ça décrivait très bien la subtilité et puis la fluidité entre l'amitié et la relation amoureuse entre deux femmes. Donc ouais, ça m'a marquée. Alors, le passage, c'est... Mais ce n'est pas cela que je veux dire de l'amour. Je voudrais écrire l'histoire d'un lien qui serait doux comme l'amitié, solide comme la roche, vibrant comme un torrent. Un sentiment pareil à celui qui nous lie, au contact duquel je sens grandir ma force au lieu de m'y noyer. Il me semble que ta main, lorsqu'elle se pose sur moi, contient autant de désir de me prendre que de précautions pour ne pas me blesser. C'est la première fois que je lis un texte sur l'amour où je me reconnais vraiment dans ce que j'attends de l'amour. Et ça m'a vraiment troublée. Là où j'ai pu lire d'autres romans d'amour qui étaient divertissants ou agréables à lire, mais que je trouvais parfois un peu cucu ou un peu faux. Et là, ça décrit vraiment avec beaucoup de clarté et beaucoup de précision quelque chose que j'aimerais vivre moi aussi.
Je pense que oui, il y a des expériences de lecture qui nous relient très fort.
Wendy Delorme.
Et moi, je le vois avec ma mère, par exemple. Je sais qu'il y a des ouvrages que je lui ai prêtés pour qu'elle comprenne des choses de mon vécu. Notamment Béatrice ou les corps célestes de Lucia Extebarria, que je lui ai donné à lire quand j'avais une vingtaine d'années. C'est l'histoire d'amour entre deux jeunes filles. Et j'avais besoin à ce moment-là de ma vie qu'elle comprenne ce que j'étais en train de vivre. Donc c'était comme un message codé, un peu. Et là, récemment, je lui ai prêté Les fleuves du ciel d'Elif Shafak, que je viens de terminer de lire, parce que je trouve ce roman magnifique et que il raconte d'autres choses aussi du vécu de l'amour entre femmes et de la découverte de ça. Et voilà, j'avais envie de partager ça avec elle. Donc pour moi, l'expérience de lecture, c'est quelque chose qui peut me relier très fort à ma mère. Alors moi, avant de participer à des book clubs, j'ai plutôt participé à des arpentages, qui est une pratique qui se transmet dans les cercles féministes, et notamment un arpentage d'ouvrages de Monique Wittig animé par Raquel Eborgi. J'en ai gardé un souvenir très fort.
Arpenter, c'est pas mal comme... Enfin, le terme est bien choisi, parce qu'en fait, on chemine dans un livre. Ce qu'on fait, c'est qu'on vient en groupe, on se divise le livre en fonction du nombre de personnes qui est là.
Marine.
Mais on se divise réellement, c'est-à-dire qu'on arrache les pages et chaque personne lit 10, 20 pages, 30 pages, voilà. Et ensuite, on fait un exercice de restitution collective où chaque personne peut... soit résumer, soit dire son ressenti après les pages qu'il ou elle vient de lire. On n'est pas obligé de suivre l'ordre du livre non plus. On tâtonne en fait, on part dans une direction, on va dans une autre. Et à la fin, on a quand même une vision du livre, peut-être pas exhaustive, parce que voilà, chacune retient une partie, mais qui donne à voir. Et si on a envie de creuser davantage, on peut toujours vouloir le lire en entier seul.
La lecture, c'est une activité qui est solitaire, en fait, culturellement, et en même temps qui est éminemment sociale, parce qu'on va se recommander, se partager des extraits d'ouvrages, assez spontanément entre personnes qui aiment lire.
Ben, pour moi, c'est vraiment devenu des copines. C'est drôle parce qu'on ne se voit pas nécessairement en dehors du book club, ou parfois on se croise par hasard, mais ce n'est pas des relations fréquentes en dehors du book club. Par contre, quand on se voit, on est trop contente et il y a une intimité qui se crée entre nous. On se partage des choses assez fortes parfois, que ce soit dans nos ressentis à la lecture de certains textes, ou de ce que ça peut faire écho dans nos parcours personnels. C'est quelque chose d'un peu unique, en fait, j'ai envie de dire. C'est une forme d'amitié sur un partage en particulier, à partir duquel d'autres choses se font.
C'est le dernier matin. Le rayon de lumière s'affadit maintenant. C'est mon cinquième jour et je n'ai plus de force. L'écriture est tremblée. Serais-je encore lisible ? Le rituel est clos. Mon témoignage est là, couché entre la pierre et la paume de ma main. Je poserai mon stylo à la fin d'une phrase. J'enroulerai ces pages pour pouvoir les glisser dans leur étui de cuir. Ensuite, seulement, je pourrai m'allonger. Personne ne viendra plus. Mais je ne suis pas seule, je ne l'ai jamais été. Parce que j'ai aimé et parce que j'ai écrit. L'écriture a été ma dernière compagne, m'a permis de tenir quelques heures de plus, puis encore quelques heures, me tenant par la main. Scellant un dialogue qui a éclos le jour où est née ma conscience. Quand la conscience s'éteint, mais que les mots subsistent et que quelqu'un les lit, on ne meurt pas vraiment. Alors oui, c'est vrai que dans Viendra le temps du feu, il y a la thématique du cercle de lecture, impulsée par un ancien libraire qui a été interdit d'exercer, puisque j'imagine un univers dans lequel tout est contrôlé, notamment l'accès aux livres. Mais Louis, qui est une personne âgée et qui était un libraire, il a à cœur de continuer à transmettre la lecture et les livres interdits. Et ce qui se met en place, c'est un cercle de lecture qui est queer, au sens où Louis, on apprend qu'il a été en couple avec un homme. Et en fait, ce cercle de lecture, ce sont des personnes homo, lesbiennes, gay, enfin, après, bon, les termes que j'utilise pour nommer ça sont anachroniques par rapport à l'époque dans laquelle se passe le roman. Mais ce qui se passe, c'est que c'est des personnes qui ont un vécu minoritaire et qui vont se retrouver autour des livres, et notamment des livres interdits. Il y a un parallèle qui se met en place entre un vécu du désir qui est interdit et puis un vécu de la lecture qui est interdit.
Je trouve que la lecture, ça permet de déconstruire ce qu'on a déjà pour pouvoir le réaménager autrement.
Malika.
Voir le monde d'une autre manière. Par exemple, quand on voit... enfin, avant, je n'avais pas cette vision-là. Maintenant, quand je me balade dans le lycée, enfin, je me pose des questions assez philosophiques et je me demande comment les gens ils perçoivent le mot féministe. Et si je vais voir un garçon et je lui dis « Toi, t'es féministe », comment il va le prendre, est-ce qu'il va mal le prendre, est-ce qu'il va dire oui, est-ce qu'il va faire, je sais pas c'est quoi le mot féministe. Je crois une fois j'ai demandé à ma mère, oui est-ce que t'es féministe, pour toi le féministe c'est quoi? Et elle m'a regardé, elle m'a fait, passe à autre chose. It's oh so quiet.
Bienvenue.
Merci.
Alors ce il est vraiment à l'autre bout du lycée.
Christine Barrault.
Qui a un lycée tout en longueur, donc il faut vraiment aller le chercher et aller vouloir aller jusqu'au CDI.
On peut déjà introduire le thème du jour que tu avais envoyé dans ton message. J'avais envoyé.
Le message, la lecture au féminin.
Thomas Brondeau.
Et on avait bien dit que c'était libre d'interprétation, donc on pourra discuter des choix de chacun et chacune face à ce thème.
Malika, vous voulez faire une petite suggestion? D'accord. Je m'appelle Malika, je suis en terminale générale au lycée. Moi, j'ai hésité entre deux œuvres. Il y en a une, c'était de Chimamanda Ngozi Adichie, Nous sommes tous des féministes. Et l'autre est de Virginie Despentes, King Kong Theory. Souvent, on se fait une idée sur le féminisme que c'est négatif, que c'est une rébellion des femmes et autres. Bah, grâce à l'œuvre de Ngozi Adichie, ça m'a permis de démontrer que c'était tout le contraire. Être féministe, au début, oui, c'est considéré comme une insulte, surtout pour les gens de sa culture. C'est une chose que les anciens nous disent, mais ce n'est pas totalement une réalité. Une féministe ne
va pas forcément finir sa vie seule avec des chats sans hommes. Aussi, c'était considéré comme une insulte parce que ben, les féministes, pour elles, on les voit comme des femmes qui n'aiment pas non plus se raser et ne pas porter de soutien-gorge. Et j'avoue que ça m'a un peu choquée, mais en réalité, c'est un mot qui est représenté de cette manière.
Et si on... Vous, on vous si en pensez quoi, vous?
Alors, moi... je trouve que c'est bien de finir avec des chats, des chiens, des animaux. Enfin, voilà.
Est-ce que vous, vous êtes particulièrement sensible au fait qu'un livre soit écrit par une femme ou qu'un livre choisisse pour héroïne une femme en particulier?
C'est largement plus intéressant que, au lieu que ça soit un homme, parce qu'on a l'habitude de voir un homme qui sort de nulle part et décide de sauver la planète. Alors que là, une fille totalement banale, comme toutes les autres, qui vient et qui bouleverse toute l'histoire, je trouve ça largement plus intéressant et ça rajoute un petit plus dans l'histoire.
Et vous, Dulcina?
On retrouve toujours une finesse assez particulière dans l'écriture des femmes que j'aime beaucoup. Après, je dis pas que les hommes, ils écrivent mal, hein, non. Mais c'est vrai que c'est très différent et que je suis plus sensible à ça.
Voilà. Alors, moi, toujours du côté de la science-fiction, hein, parce que c'est mon fond de commerce.
Madame Flamand.
Les auteurs de science-fiction, ils ont vraiment cette vision de la femme grande, svelte, qui se lève, elle est déjà maquillée, elle va conquérir le monde, c'est Barbarella... Et puis, alors que les autrices de science-fiction, elles parlent de femmes normales, avec une vie normale. Elles n'ont pas cette espèce de vision fantasmée de la femme que je trouve les auteurs de science-fiction ont, voilà, en particulier.
Elles peuvent être vues comme la tentatrice, entre guillemets, comme dans... Manon Lescaut.
Elsa.
Il y a ces stéréotypes-là, des fois les femmes qui sont toujours attachées au même rôle, de la tentatrice ou juste de l'amoureuse du héros, par exemple. Mais du coup, avec l'évolution de la lecture, quand c'est les femmes qui écrivent, elles essaient de faire en sorte que ce soit réaliste, on puisse se rattacher au personnage principal.
Ce serait bien si les garçons venaient aussi, parce que c'est totalement différent de ce que les filles lisent. Mais trouver des garçons qui lisent, c'est très rare. Donc bon... Mais après, être en fille, c'est bien aussi.
Vraiment nourri intellectuellement et émotionnellement et socialement. Enfin, c'est vraiment ça, en fait. C'est une œuvre qu'on peut refermer et qui est complète, en fait. On est allé au bout. Et après, ça permet de garder l'œuvre en tête ou dans nos vies d'une autre manière.
Ah, il est là. Donc là, j'ai sous les yeux un exemplaire d'un roman de Colette qu'elle annonce comme étant son dernier roman. Il s'appelle Le Fanal Bleu. Et c'est un exemplaire qui a été lu et relu par ma grand-mère, qui me l'a offert. Et donc, au moment où elle me l'offre, elle m'écrit « Ma grande, j'ai relu avec bonheur ce livre de Colette dont je t'ai parlé et que je t'offre, malgré ses pages jaunies et disloquées. La sensualité magique de son style constitue un véritable prisme littéraire à travers lequel une vieillesse, même abîmée, peut s'enrichir de multiples petits bonheurs au quotidien. Ta mémé de 76 ans. Il n'y a qu'à attendre pour que tout s'éclaire. Au lieu d'aborder des îles, je vogue donc vers ce large où ne parvient que le bruit solitaire du cœur, pareil à celui du ressac. Rien ne dépérit, c'est moi qui m'éloigne. Rassurons-nous. Le large, mais non le désert. Découvrir qu'il n'y a pas de désert. C'est assez pour que je triomphe de ce qui m'assiège. Elle a une manière unique de parler des sens et de la sensorialité, et c'est pour ça que j'avais envie de vous partager cette première page du Fanal Bleu, d'autant plus que ce livre m'a été offert par ma grand-mère, qui m'a appris à lire et à écrire, et qui m'a donné pour mission d'être romancière. Voilà.
Merci à Christine Barrault et aux équipes du lycée Joliot-Curie à Nanterre pour leur accueil.
Lectrice.
C'était Celles qui lisent, épisode 7. Book Club, un lieu de partage. Avec Wendy Delorme, Virginie Despentes, le Book Club de Quimperlé, de Strasbourg, de Nanterre et Mélina. Prise de son, Eric Audra, Nicolas Mathias et Sébastien Royer. Mixage, Eric Boisset. documentation, Anne-Lise Signoret, Antoine Guilloz. Archivina Mylène Touchet, chargée de programme, Marie-Vanna Bolivier, Anaïs Morales. Coordination, Emmanuel Laurentin. Celles qui lisent, une série documentaire d'Hélène Goutani et Anne Pérez.